Juste avant la pause, nous parlions de photos libres. Maintenant, nous allons aborder notre sujet long, donc avec nos invités Martin Drago et Arthur Messot de la Quadrature du Net. Donc, bonjour Martin, rebonjour Martin, rebonjour Arthur.
Bonjour.
Et mon collègue Étienne Gonu, donc en charge des affaires publiques, a pris place à la table pour animer cette partie de l'émission, donc qui va porter sur le projet de règlement terroriste censure sécuritaire. Donc je te passe la parole, Étienne.
Merci Fred. Bonjour Arthur, salut Martin. Peut-être première question, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce qu'est la Quadrature du Net ?
Alors, on va se répéter, j'imagine. Hein. Mais la Quadrature du Net, c'est une association qui, depuis 10 ans, lutte contre la censure et la surveillance sur Internet, qu'elles viennent d'entreprises privées ou d'État. Donc, ça peut être, pour faire large, à commencer avec les questions de droits d'auteur, où on a vu les premières mesures de censure apparaître. Et après, malheureusement, ça s'est étendu à des questions un peu plus tristes, comme les mesures de réaction au terrorisme. Aujourd'hui, on va avoir une réaction à la haine ou au racisme en ligne. Donc des choses un peu moins fun que lutter contre ACTA ou lutter contre l'industrie musicale qui se mange les pieds dans le tapis tout le temps. Donc là, voilà, on va lutter entre autres contre le ministère de l'Intérieur et aussi contre les GAFAM qui, comme on va le voir, ne sont pas étrangers aux stratégies sécuritaires des gouvernements.
Ça me paraît bien. Tu voulais rajouter quelque chose, Martin
ou... Non. Peut-être en ce moment, peut-être qu'on essaie un peu plus de développer nos activités, enfin notre lutte sur un peu les outils technologiques de surveillance dans l'espace public, donc tout ce qui est reconnaissance faciale, micro, etc.
Pas
c'est
que
un
Internet,
peu un nouveau champ, ouais, voilà, pas que Internet.
Ok. Si vous suivez nos actualités à l'April, vous voyez qu'on a effectivement des similitudes dans nos champs d'action. Alors, tu parlais de droits d'auteur, nous, on est effectivement très mobilisés sur la directive de droits d'auteur. Je pense qu'on reviendra un peu plus tard sur les mobilisations, et je pense qu'il y a des problématiques très similaires, du moins dans les menaces qui nous sont portées. Bien sûr, là, si on a invité la Quadrature du Net, donc c'est sur cette mobilisation contre la proposition de règlement relative à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. On a bel exemple de Novlang, et qui est en ce moment discuté donc au Parlement européen. Donc là, on est vraiment dans l'actualité. D'ailleurs, pour celles et ceux qui suivent nos actualités, nous avions signé effectivement un de vos appels en décembre 2018 contre la censure sécuritaire, ce qui est clairement ce texte-là. Alors, je pense qu'on pourra tous être d'accord pour te dire que lutter contre la diffusion de contenu qualifié de terroriste, que ce soit pour limiter la propagation, on va dire, d'un appel à la commission d'actes dits terroristes, du coup, ou simplement de préserver notamment les plus jeunes, on peut penser à l'exposition à certaines images très violentes, ça, on peut considérer que c'est en soi des buts légitimes de politique publique, des pouvoirs publics. Mais souvent, voilà, comme souvent, la question, c'est comment on s'y prend, quelles sont les actions qu'on mène collectivement pour lutter justement sur cette problématique très complexe. Et là, on peut se poser la question de comment justement le règlement entend régler ces questions-là, adresse ces questions-là, et finalement, pourquoi se mobiliser contre ce règlement qui, on peut se dire, porte des ambitions légitimes.
Peut-être pour recadrer vis-à-vis de l'actualité. Donc ce règlement, il a été proposé par la Commission européenne en septembre 2018. Donc on reviendra un peu plus tard sur sa genèse et pourquoi en fait c'est pas du tout un hasard qu'il soit arrivé l'année dernière. Et donc là, depuis septembre, le texte a été négocié assez rapidement. Et aujourd'hui, il est devant le Parlement européen et on a un vote, un premier vote décisif le 21 mars. Voilà, donc on est en plein, c'est dans 10 jours, hein. Donc on est en plein dans l'actualité. C'est un des textes qu'on a vu avancer le plus vite dans l'Union européenne. Donc là, en septembre, ça devait être quoi, il y a 8-9 mois, et on va avoir un texte qui est potentiellement bouclé, alors qu'il a des conséquences extrêmement vastes, et que tous les parlementaires qu'on a rencontrés nous disent tous qu'ils sont incapables de travailler dans des conditions raisonnables, vu les délais. Et les délais, c'est quoi, hein, tout le monde comprend, c'est les élections européennes qui arrivent, et tout le monde veut boucler, tout le monde veut avoir son petit trophée, sa petite médaille à agiter au moment des élections européennes, en mode, regardez, on a lutté contre le terrorisme, même si on a fait n'importe quoi et qu'on ne comprend pas ce qu'on a fait, regardez comme on est sérieux et qu'on défend l'Union européenne.
Oui, c'est sûr que l'héritage, on le voit souvent. Alors, tu parles justement de la rapidité, effectivement, de la procédure. On peut préciser, parce que ceux qui suivent l'April savent que là, nous, on est, par exemple, sur la directive de droit d'auteur, on arrive en plénière. Là, le vote en 21 mars, il n'est même pas d'heure à ce niveau-là. Il est encore ce qu'on appelle dans la commission jury.
Libé, pardon, oui, tout à fait.
Mais c'est possible, il faut voir que c'est possible, et le but du Parlement européen et de certains députés au Parlement européen, c'est de le faire passer en plénière, c'est leur objectif, alors c'est pas sûr qu'ils y arriveront, mais leur objectif c'est de le faire passer en avril. Donc en fait c'est incroyable d'avoir un texte présenté en septembre, adopté par le gouvernement en décembre, et même pas 4 mois après en plénière quoi. C'est vraiment exceptionnel.
Alors, ça serait qu'une première lecture. Hein, on est habitué dans les processus législatifs au Parlement, une lecture, deux lectures. Bon, là, contrairement à la directive copyright, on arrive plutôt à la fin du processus, avec éventuellement une victoire plus ou moins définitive. Le règlement terroriste, quoi qu'il arrive, même si dans le mois qui vient, on arrive un peu à obtenir des choses, ça sera qu'une partie du combat. Et le combat va reprendre en fait après les élections européennes, donc en septembre. Et donc là, tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, il faudra le ressortir, se remettre au frais. En septembre, on devra repartir lutter avec un Parlement européen dont on ne connaît pas la composition politique, mais dont beaucoup craignent qu'elle soit encore plus à droite qu'aujourd'hui. Et ça, c'est clairement inquiétant. Donc nous, si on peut s'offrir un peu plus de temps pour débattre sur un sujet aussi grave, si en septembre, on peut avoir des débats qui prennent plutôt plusieurs mois à la place de juste quelques semaines, on est ravis, hein. Mais ça sera plutôt un Parlement de droite éventuellement, ou un Parlement très pro-Macron. Enfin, voilà. On ne sait pas du tout encore où est-ce qu'on en est. Donc là, on est, contrairement à un copyright, on est encore beaucoup dans l'incertitude. Et ce règlement, voilà, il a deux... Enfin, ce combat contre ce règlement, il a vraiment deux tons. La première tonalité, c'est l'urgence et l'incompréhension. Et la deuxième, c'est des stratégies extrêmement dures à avoir, hein, parce que c'est une confusion totale entre le Brexit, on en reparlera après, mais le Brexit vient semer une confusion pas possible là-dedans, et des députés qui ne savent pas de quoi ils parlent, et on ne sait pas au final quand est-ce que ce texte sera adopté. Donc voilà, c'est vraiment un des sujets à la quadrature, je pense, une des luttes qu'on a eues, qui est la plus confuse, et en même temps, quand on regarde le texte de près, on en parlera, la plus dramatique. Mais voilà, tout ça dans ce contexte électoral fait que c'est très difficile à la fois de mobiliser les députés et aussi la population, on en reparlera, hein, il y a quand même énormément de luttes en ce moment variées, et voilà.
Ouais, et la plus compliquée aussi, parce que je trouve que c'est surtout le sujet en fait, et nous on est souvent au Parlement européen avec Arthur, et en gros le texte il s'appelle terrorisme, et ça pour combattre contre un texte comme ça c'est très difficile en fait, parce que dès qu'on prend position contre un texte sur le terrorisme, du coup on peut être taxé de vous êtes pour les terroristes, etc. Donc ça rend les débats encore plus compliqués, parce que rassembler les gens pour lutter contre un texte qui, justement, devrait aider à lutter contre le terrorisme, c'est vraiment extrêmement complexe, quoi. Et même les députés européens nous disent « Ah, mais vous voyez, même ceux qu'on aurait pensé dont on aurait pensé le soutien, eux nous disent « Ah, mais là, je peux vraiment pas voter contre un texte comme ça, c'est trop difficile. » Donc ça, vraiment le prétexte utilisé par la Commission et les États membres qui poussent le texte, le prétexte du terrorisme, malheureusement, il marche très bien, quoi. Et encore plus dans l'urgence des élections européennes qui arrivent.
Bien sûr. Et je pense, vous parlez là du contexte, je pense qu'il est quand même intéressant. Alors, moi, j'ai cette sensation quand même que le prétexte, on va dire, terroriste, c'est... À quelques années, on pouvait encore quand même entendre des personnes dire « Oui, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi à condition de terrorisme. Il faut quand même respecter l'état de droit, balancer, enfin, avoir des réponses proportionnées par rapport à la menace. » Là où j'ai l'impression qu'à une époque, justement, le copyright, quoi qu'il en soit, de toute façon, comme il s'agissait de sauver les auteurs qui meurent de faim, on pouvait tout se permettre. Je ne sais pas si ça a tant évolué sur le droit d'auteur, mais en tout cas, sur le terrorisme, clairement, il est très difficile d'entendre une voix divergente, effectivement, maintenant. Alors peut-être qu'il peut être intéressant aussi de voir peut-être que ce texte-là est situé à un niveau européen. Je crois que la France, on pourra en reparler, la France a joué un rôle assez prédominant. Et si on regarde notamment en France l'évolution des textes sécuritaires, je pense qu'il remonte depuis 2013 notamment, mais bon, on avait déjà des prémices avant. Il y a quand même un contexte, une surenchère de textes sécuritaires qui fait qu'on est encore dans un état de droit où on parle régulièrement liberté, première des sécurités, non, sécurité, pardon, première des libertés. Ouais. Voilà, on est quand même dans un contexte assez particulier. Donc j'ai bien peut-être comment vous ressentez ça, notamment dans votre mobilisation, dans les contacts que vous avez avec les parlementaires et puis de votre expérience à la Quadrature du Net.
On était encore à Bruxelles la semaine dernière. C'est assez fou de voir. Donc, on souligne tous les dangers du texte. Pourquoi il est inefficace? Pourquoi il va détruire une partie du web, de l'internet décentralisé, etc. Et moi, ça m'a vachement surpris d'avoir plein de députés qui font ouais, mais en fait, on peut pas ne rien faire. Et quand on soulève ces difficultés, en fait, leur truc, c'est on se rend compte qu'ils ont pas réfléchi sur le texte, mais que c'est juste ce prétexte du terrorisme. En fait, on sent qu'ils sont poussés de tous les côtés. Ils ont peur pour leur élection. Et ça marche trop bien, quoi. Et en fait, on s'est retrouvé devant des députés qui n'ont même pas réfléchi parce qu'en fait, on leur a dit terroriste et du coup, ils votent. En fait, donc ça, c'est assez incroyable à voir, quoi, devant soi, quand on parle.
On en parlera dans le détail, je pense aussi, mais le texte, hein, il n'a rien changé contre le terrorisme. Il est complètement vide, il n'a pas du tout été pensé pour être utile, il a été pensé pour être un symbole. Et nous, quand on explique ça aux députés, ils nous disent, ils soufflent et ils sont là genre, ok, peut-être que vous avez raison, mais imaginez qu'un attentat demain, et que c'est vraiment le truc ultra classique. Hein. Imaginez qu'un attentat demain, moi, si mes électeurs, ils voient que j'ai rien fait pour éviter ça, on va me le reprocher. Donc il faut même que je fasse quelque chose, même si c'est inutile, même si je sais que ça ne sert à rien. Si je ne fais rien, ce sera encore plus grave que si je fais quelque chose d'inutile.
Et d'ailleurs, en décembre, pendant le débat sur ce texte, le Parlement européen a adopté un rapport. Donc c'est pas un texte législatif proprement dit, c'est juste plein de bonnes intentions, on va dire, entre guillemets, du Parlement européen sur le sujet du terrorisme. Dedans, il y avait beaucoup, beaucoup de trucs problématiques, dont déjà l'idée des filtres automatiques, donc on reviendra sur le détail du texte, filtres automatiques, quelques attaques contre le chiffrement, parce que ça permettait aux terroristes d'échanger des messages. Et le texte, il a été voté le lendemain de l'attentat de Strasbourg.
Et en fait, il a été voté à Strasbourg.
Il a été voté à Strasbourg, et donc en plus, ils ont voté alors que toutes les portes étaient fermées, etc. Ça montrait l'ambiance, et en fait, du coup, c'est impossible de discuter en fait sur le texte. Même nous, je crois qu'on a fait un article, mais c'est hyper difficile, et du coup, tous les députés se sont couchés, même s'il y avait des difficultés, parce que il y avait un attentat en cours, quoi.
Après, sur la façon dont le public reçoit ça, je pense que c'est assez variable. Si on remonte à 2013, tu disais, donc c'était la LPM de 2013, après qu'elle enchaîne directement avec la loi renseignement, où le gouvernement met en avant systématiquement des prétextes terroristes pour se donner plus de pouvoir pour surveiller la population. Alors qu'évidemment, dès qu'on regardait dans le détail du texte, on voyait que le terrorisme n'était qu'une parcelle du texte, et que la plupart du texte ne concernait pas du tout le terrorisme, mais plutôt de la surveillance économique ou de la surveillance politique. Bon, à l'époque, je pense que ça commençait à être un peu... Mais pour nous, quand même, c'était assez récent de s'en prendre au gouvernement sur ces questions, mais les gens étaient réceptifs. Et là où les gens étaient encore plus réceptifs, je pense, dans notre public en tout cas, c'est pendant l'état d'urgence, où là, on a eu une espèce de tombée des masques, où tout d'un coup... Le prétexte terroriste était clairement utilisé sans gêne pour faire de la censure politique ou pour faire du harcèlement de certaines populations. Donc là, tout le monde avait conscience de ça. Et nous, à la Quadrature, on a quand même senti un soutien assez fort de la part du public qui ne se faisait pas du tout avoir sur le prétexte terroriste. Mais alors là, ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi cette campagne, elle est dure en dehors de l'urgence, c'est parce que, en fait, si on regarde depuis 3 mois ou depuis 6 mois, les sujets avec ce niveau d'anxiété, il y en a plein en France. Il y en a plein. Donc là, on a la loi anti-casseurs qui ressemble beaucoup en fait à la loi anti-terroriste dans ses fondements philosophiques. On va avoir la loi contre la haine en ligne qui va reprendre les mêmes mesures, qui va reprendre les mêmes logiques au moins techniques. On a toute la réaction aux gilets jaunes de la part du gouvernement qui s'inscrit beaucoup dans cette idée de il faut plus qu'il y ait d'espace de non-droit, il faut civiliser les gens ou il faut civiliser Internet. Ben, c'est la même chose, là, vu que le mouvement des Gilets jaunes est expliqué comme étant né sur Internet. Donc on a tout ce bric-à-brac qui fait que, en plus de ça, si on rajoute le mot terroriste, ça devient extrêmement compliqué de regarder ça au calme. Alors on y arrive, hein, si on regarde le texte, en fait, le texte n'est pas très compliqué. Mais pour le public, je pense que c'est compliqué d'avoir une grille de lecture homogène entre toutes ces différentes attaques contre nos libertés.
Alors, tu évoques le terme de terrorisme et je pense que c'est important aussi de se poser la question aussi de qu'est-ce que ça veut dire en droit, parce que finalement, là, on parle de texte de droit. Mmh. En droit, on sait que c'est extrêmement... Enfin, là, surtout dans un état de droit, si on parle de démocratie, etc., la lisibilité du droit est extrêmement importante. Donc, c'est-à-dire de savoir déjà est-ce que ce qu'on fait est autorisé ou non et quelles sanctions on encourt. Alors, il y a une directive de 2017 qui définit ce qu'est un acte terroriste. Alors, la particularité, c'est pas que tant les actes, vous allez pouvoir me préciser tout ça et me corriger éventuellement, c'est pas tant les actes, mais l'intention qui serait derrière l'acte qui va venir définir tout ça. Je trouve que c'est assez tautologique en fait tout ça. Mmh. Et alors, c'est vrai qu'on entend souvent, presque sur le ton de la plaisanterie, maintenant, de toute façon, le droit antiterroriste, ça sert à mettre les écolos en prison, quoi. Donc, parce que je crois que ce texte, déjà, le règlement ne définit pas du tout, il s'appuie sur la directive de 2017. Et est-ce que vous pouvez nous rentrer dans les détails, mais comment est-ce que cette directive définit justement cette notion de terrorisme, d'acte terroriste ?
Alors, donc la directive, elle définit de façon très large. Alors, je ne vais pas vous lire les textes, là, je ne les ai pas sous les yeux. Mais nous, dans les actes qui nous inquiétaient le plus, on allait avoir du piratage informatique ou des destructions matérielles importantes, donc qui ont des conséquences économiques importantes. Alors évidemment, on va retrouver le meurtre et d'autres choses, mais il y a déjà ces deux choses-là. Et comme tu le disais bien, c'est l'intention qui va permettre de qualifier l'acte. Et l'intention, encore une fois, c'est très large. Ça va être déstabiliser des institutions politiques, mais aussi économiques, donc déstabiliser gravement, ou essayer d'influencer une décision de l'État, de l'État ou de collectivité.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est au-delà de la définition, c'est qui interprète la notion. Et nous, c'est surtout vachement ce qui nous inquiète, c'est-à-dire que dans ce texte, ceux qui interprètent la notion, c'est la police, donc qui peut avoir une visée très large et du coup avec un risque de censure politique derrière, ou alors une délégation, on en reviendra après, mais aux géants du net aussi, et même à tous les acteurs de l'Internet, avec des grosses sanctions financières si vous ne censurez pas et si vous obéissez pas à la police. Donc en fait, eux aussi, bon, bah, c'est normal, hein, pour éviter une sanction financière hyper importante, il faut avoir une interprétation très très large. Donc il faut bien voir qu'effectivement, il y a un problème sur la définition de la notion, mais c'est surtout c'est qui l'interprète et qui va l'interpréter pour sanctionner derrière.
Et je vais appuyer ton point, sans être trop provocant, parce que ce n'est pas le but. En fait, il y a un débat à savoir si c'est vraiment intéressant de se pencher sur la notion de terrorisme. Parce que comme tu le dis, les écolos vont être qualifiés de terroristes, ou en tout cas des mesures antiterroristes vont être utilisées contre eux. Mais à la limite, est-ce que c'est notre rôle de dire que c'est vrai ou pas? Si après tout, il y a des écolos qui veulent s'inscrire dans des pratiques proches du terrorisme, et comme on a eu des mouvements politiques terroristes depuis voilà, 300 ans, c'est pas notre rôle de dire, de qualifier ça, ou de réécrire l'histoire, ou de dire « Ah, mais en fait, les Algériens qui ont provoqué leur indépendance, eux, c'était des gens antiterroristes, contrairement aux anarchistes du début du XXe qui étaient... » Enfin, c'est pas notre rôle de réécrire l'histoire, de réécrire les définitions. Et comme le dit Martin, en fait, c'est plus des questions de séparation des pouvoirs qui vont être importantes, plus que de définition. Faut pas être trop légaliste, à trop s'en tenir au texte en disant « Ah, le texte, il dit que telle catégorie, c'est bon, et telle autre, c'est pas bon. » En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui interprète les catégories. Est-ce que c'est le pouvoir politique, donc le gouvernement via sa police, qui choisit ce qu'on a le droit de faire ou pas, ou est-ce que c'est une autorité indépendante? Et de façon classique, l'autorité indépendante, ça sera le juge. Donc voilà, donc pas trop peut-être passer trop de temps à trop coller au texte pour essayer de comprendre, en sachant qu'en fait, le texte, on s'en fiche un peu de ce qu'il y a écrit, parce que c'est la personne qui va le lire et l'appliquer qui est peut-être le plus important.
Là, peut-être qu'un point, je pense qu'on peut commencer peut-être, bon, malgré tout, à rentrer un peu dans le texte. Et apparemment, quand même, ce qui est un des points de friction et un point de tension particulier, c'est ce qu'on on sort du rôle, finalement, du juge et on donne un pouvoir. Alors, la directive semble juste laisser la porte ouverte. On sait très bien qu'à partir du moment où ils ouvrent cette porte, on imagine très facilement un danger, c'est-à-dire de dire que c'est aussi l'autorité administrative qui va pouvoir décider si un contenu en ligne va relever ou non de la qualification de terrorisme. Donc déjà, peut-être pourriez-vous préciser un peu ça. Et je pense que parallèlement, c'est intéressant ce que vous aviez commencé aussi à évoquer la question du rôle des plateformes et peut-être déjà définir quel type de plateformes vont être concernées et donc leur rôle est un peu, voilà, c'est un peu, parce que ça va être les deux acteurs principaux si ce texte passe de l'application de ce régime-là, donc voilà.
Alors le pouvoir de censure, donc effectivement, dans le texte, en fait le texte ne va pas préciser exactement quelle autorité a le pouvoir d'ordonner à tous les acteurs du web, parce que dans le règlement tel qu'il a été proposé par la commission, en gros c'est tout le monde, tous les acteurs du web, donc tous les sites internet
qui hébergent
du contenu.
Mais qui mettent à disposition. Il faut quand même qu'il y ait ces notions.
C'est pas clair. C'est pas encore très clair. Mais a priori, ça sera mis à disposition du public. Ouais.
Aujourd'hui, en fait, dans le texte, c'est mis à disposition des tiers et pas juste du public. Donc ça peut être quand même extrêmement large. Et donc le texte, il permet à la police, enfin, à une autorité, d'ordonner à ses acteurs de supprimer un contenu que elle, l'autorité, a défini comme terroriste. Et l'acteur doit le censurer en une heure. Sinon, derrière, il peut avoir des sanctions très importantes. Alors, c'est encore aux États de décider, mais sinon, dans le règlement, c'est 4% du chiffre d'affaires de l'acteur. Effectivement, le texte, et nous, on le répond souvent au Parlement, on dit « Ah, mais oui, mais il n'y a pas marqué que ce sera la police qui doit le faire. » En fait, il laisse le choix. Ça peut être une autorité administrative ou judiciaire. En fait, le fait est que tout le monde et tous les États préféraient avoir une autorité administrative parce que eux estiment, mais ce n'est pas toujours le cas, que c'est beaucoup plus rapide. Et en France... nous, on nous l'a dit qu'on a vu les ministères, etc. Et en France, aujourd'hui, ça existe déjà, hein, cette possibilité de censure en 24 heures. Alors là, en France, c'est 24 heures, c'est pas juste une heure. Et c'est déjà, c'est déjà la police qui le fait. Alors un office, j'arrive jamais à retenir le nom.
Au CLCTIC.
Voilà. Dont on a déjà vu, et ça, c'est intéressant à souligner, les dérives aujourd'hui, en fait. Donc en France, cette obligation de censure en 24 heures, forcée par la police, elle existe. Récemment, il y a eu l'affaire Indymedia qui est assez intéressante. Donc on a eu la police française qui a utilisé son pouvoir, qui a ordonné la censure de certaines pages d'un site Indymedia qu'elle a considéré comme terroriste. Donc les pages ont été censurées pendant un an et demi jusqu'à ce qu'un juge soit saisi. Et jusqu'à ce qu'un juge, il y a un mois, ait dit « mais en fait, c'est pas du tout un contenu terroriste, vous n'avez pas le droit de censurer ». Donc ça, je trouve ça toujours intéressant à souligner, en fait, c'est qu'en France, le risque de dérive politique de la censure, il existe déjà, il est déjà arrivé. et va être encore plus amplifié avec un règlement comme ça où il y a des obligations encore plus strictes que ce qui existe en France aujourd'hui.
Ce qui est dramatique sur le cas français et qui nous apprend aussi un peu sur l'Union européenne, c'est qu'un argument qui revient souvent entre les députés, donc là qu'on a rencontré la semaine dernière notamment, c'est « Ah mais vous comprenez, on ne peut pas exiger un juge dans le règlement antiterroriste parce que sinon ça remettra en cause le droit français ». Du coup, on a un nivellement par le bas terrible où, en fait, il n'y a à peu près qu'en France et au Royaume-Uni que la police peut censurer sans l'autorisation préalable d'un juge. Et du coup, tout le monde s'aligne sur le régime le moins respectueux des libertés et de la procédure et de l'état de droit. Et voilà, il suffit qu'il y ait un cancre dans les 28 États membres ou les 27 bientôt pour que tout le monde s'abaisse à son niveau. Et c'est ça l'Union européenne aujourd'hui des libertés, en tout cas la façon dont les parlementaires et les gouvernements le pensent. Alors que, au contraire, si l'Union européenne voulait se donner les moyens de fonctionner à l'inverse, que ce soit par exemple les juridictions européennes ou le pays le plus protecteur qui montre l'exemple, ce serait possible. Mais en fait, ce qui se passe, je vais dire juste trois mots, mais quand la Cour de justice de l'Union européenne, qui est la Cour suprême en gros de l'Union européenne, prend une décision qui va par exemple interdire des mesures de surveillance généralisée de la population, la plupart des États membres refusent d'appliquer les décisions de justice de l'Union européenne. Donc dès que l'Union européenne propose plus de liberté pour la population, là tout d'un coup on s'en fiche, l'intégration c'est chacun chez soi, et après tout les valeurs françaises sont plus importantes que celles européennes. Par contre dès qu'il s'agit de niveler par le bas, ah là l'Union européenne c'est quand même bien pratique et bien efficace. Alors pour répondre à ta seconde partie, je te laisserai compléter Martin, sur comment les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, alors peut-être pas les cinq là de la même façon, mais comment sont-ils mis dans le jeu. Donc alors là, on va un peu remonter dans le passé. C'est vraiment important pour comprendre, je pense. En 2015, on a une série d'attentats en France et en Belgique qui sont très très impressionnants. Du coup, la Commission européenne met autour de la table Google, Facebook, Twitter et Microsoft, alors en disant faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas ne rien faire, etc. Eux ils disent pas de souci, nous on est ravis pour collaborer là-dedans, et ils créent le forum européen de l'internet. Qui correspond en fait à une autre structure qu'au niveau mondial les 4 acteurs avaient déjà fait, donc il y a pour but de mettre en commun des réflexions et des ressources technologiques pour lutter contre la propagation de contenus terroristes en ligne. Donc dès fin 2015. Pendant 2 ans, ils continuent leurs expérimentations et tous les 6 mois, la Commission européenne, à leur côté, fait des déclarations publiques en disant que c'est de mieux en mieux, qu'ils sont ravis. Et donc ils commencent à expliquer qu'ils ont fait une base de données commune entre les 4 entreprises, où en fait chaque entreprise, dès qu'elle repère un contenu terroriste, donc la façon dont ils repèrent en général c'est avec des fermes à clics, donc c'est des milliers de personnes qui sont embauchées en Asie du Sud-Est, au Maghreb, en Amérique du Sud, qui toute la journée regardent des contenus signalés et qui disent c'est terroriste ou pas terroriste, et quand une de ces personnes-là exploitée, hein, économiquement en tout cas exploitée, quand une personne dit que le contenu est terroriste, ça va, on fait une empreinte numérique en hash de la vidéo ou de la photo, qui va dans la base de données commune aux 4 entreprises. Et comme ça, après, dès qu'une image est mise en ligne, on peut comparer son hash à ce qu'il y a dans la base de données et du coup empêcher sa mise en ligne. Donc, vraiment, ça ressemble beaucoup au Content ID de YouTube.
On précise juste qu'un hash, c'est une empreinte, en fait.
Ouais, voilà, une empreinte d'une image et qui pèse rien et qui est facile à générer et à comparer. Donc techniquement, c'est assez simple leur histoire. C'est juste que c'est impressionnant parce que c'est 4 quand même très grosses plateformes qui font ça. Et la commission est ravie de ça. Et puis là, il y a encore 6 mois, ils disaient on a 80 000 contenus qui sont comme ça listés. Non, en fait, ce qui est une liste noire, une liste de blocage privée sur lesquelles les juges n'ont aucun droit. Et ça, Martin, tu l'avais bien relevé. Et en fait, quand on regarde les documents internes de Facebook notamment, Facebook dit que c'est très important que les États n'aient pas de regard sur cette liste de blocage.
Ouais, non, en fait, donc il y a un droit de... Bref, il y a eu des documents qui sont un peu fuités sur Internet, sur les réunions entre la Commission européenne et Facebook, notamment, surtout. C'est assez intéressant à lire, c'est un article de Politico. Et en gros, dedans, on voit déjà que Facebook voit la Commission très, très souvent. Et en gros, qu'elle promeut vraiment son outil de modération, en disant, en fait, ça marche trop bien. Et elle parle bien d'une boîte noire, c'est-à-dire en disant, justement, on est hyper clean, les États ne peuvent pas venir faire de censure politique. Donc en fait, il y a juste nous qui pouvons le faire, et c'est notre boîte noire de modération. Donc personne ne voit en fait ce qu'on modère et ce qu'on modère même préalablement, avant qu'on poste un contenu même. Et ça, c'était assez intéressant. Ouais.
Donc du coup, on arrive en 2018, un peu pour le terme de l'expérimentation. Donc les 4 entreprises sont là, la commission est là. Il faut un communiqué de presse tous ensemble, avec des citations de chacun, comme si c'était la grande même entreprise ou institution. Ils disent, bah, c'est génial, notre travail pendant 3 ans, il a porté ses fruits, ça marche. Maintenant, le seul problème, c'est que tout le reste, toutes les autres plateformes du web, n'utilisent pas nos outils. Et ça, il va falloir régler ça. Manifestement, on comprend qu'ils sont déjà allés voir quelques plateformes moyennes comme Pasteit ou d'autres plus petits acteurs qui ont dit genre, mais non, nous, on ne veut pas du tout implémenter votre boîte noire, là. Nous, on continue à faire la modération chez nous. Et apparemment, ils ont tous fait la gueule, que ce soit la commission ou les géants, qui ont dit, mais non, en fait, il faut les forcer à utiliser notre liste noire et nos outils de modération. Donc là, la commission, sans souci, sur demande en plus des ministères de l'Intérieur français et allemand, donc c'était Gérard Collomb à l'époque qui envoie une lettre qui a fuité aussi, dans laquelle il dit ça, il dit, il faut que les petits et moyens acteurs utilisent les outils de censure développés par les géants. Et en fait, en pratique, ça veut dire quoi? En pratique, ça veut dire que si ce règlement s'applique tel qu'il est proposé actuellement, demain, que ce soit Wikipédia ou le site d'hébergement de photos dont on parlait, Flark.
Flickr.
Je suis désolé, je ne vais pas sur Flickr. Et bien tous, en tout cas, devront, en tout cas dans l'idéal de la Commission européenne et de ses entreprises, mais dès qu'on mettra une image en ligne, une vidéo en ligne sur Flickr, Dailymotion ou Wikipédia, bien, l'image passera par le filtre à comparer à la liste noire des 4 grosses entreprises qui font ça toutes seules dans leur coin. Et si ces entreprises ont décidé que ce contenu est illégal, parce que terroriste ou parce que, pour d'autres raisons, bientôt, on va le voir, ce contenu ne sera pas mis en ligne sur leur plateforme. Et si ces plateformes refusent de se soumettre à ça, à cette logique-là, elles seront exposées à des sanctions économiques.
Alors, on va voir les détails après une pause musicale pour permettre de souffler un peu et de digérer ces informations. Donc, nous allons écouter Family Blues par Damned and Dirty.
Cause commune, cause-commune.fr. Thank you.
Vous êtes de retour dans l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur le site causecommune.fm partout dans le monde. Nous venons d'écouter donc Family Blues par Damned and Dirty. C'est en licence Creative Commons partage à l'identique, donc vous pouvez le partager avec qui vous bon vous semble. Et les références sont sur le site de l'April. Donc nous allons poursuivre le sujet donc du projet de règlement terroriste censure sécuritaire, toujours avec donc Martin Drago et Arthur Messot de la Quadrature du net, et mon collègue Étienne Gonu, donc de l'April. Étienne, je te repasse la parole.
Merci Fred. Je pense qu'on a déjà fait un bon tour aussi du contexte, notamment particulièrement du contexte de la lutte de la politique antiterroriste et de ce règlement. Je pense que ça va être intéressant aussi de rentrer un peu plus dans les détails qui nous intéressent. Et notamment, pour ceux qui suivent à nouveau l'April, vous savez qu'on est très engagé contre l'article 13 de la directive droit d'auteur. Et comme je disais, moi, je vois beaucoup de similitudes en fait entre ces deux dossiers. D'une part, parce que les deux sont très marquants d'une volonté de faire porter une responsabilité de plus en plus grande sur les intermédiaires techniques, sur les contenus que leurs utilisateurs et utilisatrices vont mettre en ligne. Et puis de les faire police un peu et juge sur leur propre territoire numérique. Donc quand c'est des géants, c'est une chose, mais on voit bien que du coup, ça a tendance à pousser à la centralisation. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Et d'autre part, on voit vraiment une volonté, une velléité d'exercer un contrôle de plus en plus serré, même automatisé des flux d'informations, quels qu'ils soient. Et donc là aussi, de contrôler la manière dont on va produire de l'information, dont on va échanger de l'information, du savoir, etc. Et à base, malheureusement, de filtres automatisés. Ça, c'est un peu... le terme émerge de partout, directive droit d'auteur, terroriste... contenu terroriste, les propos haineux en ligne, et c'est un peu ce qu'on qualifie souvent de solutionnisme un peu technologique. En gros, on va sursimplifier une question qui est de base extrêmement complexe politiquement, présenter un outil, qui ne marche pas, un outil idiot comme une solution miracle, et au passage, on annihile tout débat de fond sur comment finalement penser Internet politiquement, collectivement, et notamment quand tu évoquais la question finalement des fermaclics, donc des personnes qui passent leur journée à regarder des contenus, alors que ce soit terroristes, pédopornographiques, etc., des contenus horribles, ça fait partie aussi donc d'une part de la problématique de la centralisation, mais c'est aussi une des considérations politiques extrêmement importantes de comment fonctionne Internet. Donc on nous parle, on entend souvent parler, qu'est-ce qui est acceptable dans un état de droit. Voilà, moi je pense que si on fiche à un point de vue universaliste, ça, à bon sens, ça l'est assez peu. Donc je pense qu'il serait là du coup intéressant de voir comment ce texte envisage ce filtrage. Alors, parlait d'un délai d'une heure, donc ce serait la police administrative du coup qui va regarder comment ça imposer un truc. Je crois qu'ils peuvent imposer au bout d'un moment le filtrage automatisé. Est-ce que vous pouvez peut-être nous détailler un peu
alors plus en gros ça. C'est vraiment les deux points principaux du texte, enfin nous en tout cas, qui nous inquiètent le plus. Donc on le disait, il y a un article où effectivement la police peut imposer donc le retrait en une heure d'un contenu avec des sanctions financières très importantes derrière. Mais il y a un autre article effectivement où en fait la police, et ça, c'est assez nouveau quand même, où la police peut imposer, on va dire, des mesures proactives, dont le filtrage automatique. Et ça, c'est dans le texte, c'est écrit. La police peut imposer le filtrage automatique. Il est toujours, ça a été adopté, donc c'est proposé par la Commission, adopté comme ça par le Conseil.
Et c'est juste, Conseil, c'est les États membres réunis.
Et c'est juste au moment du Parlement où là, les gens ont commencé à se dire « Ah, mais peut-être qu'effectivement, le filtrage automatique, est-ce que c'est dangereux, etc. ?» Il faut voir le temps de réaction qu'il y a eu. Mais donc, effectivement, comme dans l'article 13, on retrouve cette idée de filtre automatique liée à ce qu'avait dit Arthur avant la pause, parce qu'en fait, c'est des outils qui ont été développés par les grands groupes, Google, etc. Alors, après, nous, c'est un débat au sein de la Quadrature. Il y a une idée aussi de ces outils, de un peu de marché de ces nouveaux outils et de marché du filtre automatique, quoi. Et ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, Facebook, Google et tout ça commencent à développer un peu cette idée du marché. Alors, soit en vendant ces filtres automatiques, pourquoi ? Parce qu'en fait, les acteurs n'ont pas le choix, soit parce que la police les a imposés, soit parce qu'en fait, vous avez trop peur d'avoir une sanction financière et de ne pas pouvoir retirer en une heure si on vous appelle, la police vous appelle le week-end, par exemple. Et donc, vous le mettez en place en disant, au moins, je n'aurai pas de problème avec la police vu que j'ai un filtre automatique. Et ce qui est intéressant, c'est donc soit Google vous donne, Facebook vous donne ce filtre automatique en le vendant, ou vous le donne gratuitement, mais en fait, derrière, récupère les données qui vont pouvoir être... qu'elle va pouvoir récupérer sur ses outils.
Des utilisateurs,
oui. Sur le point, je trouvais assez intéressant, donc sur la directive droit d'auteur, on a appris qu'il y avait une sorte de lobbying qu'on n'avait pas vu. Donc il y a bien sûr le lobby de l'industrie culturelle, le lobby de Google, etc. Et Audible Music, qui est un des plus gros filtres de contenus musicaux, en fait, a beaucoup lobbyé pour l'article 13, parce que pour eux, c'est un marché assez formidable. D'ailleurs, je pense qu'on pourra le remettre en ligne. On avait Pierre Bessat, qui était intervenu dans l'émission, a fait un très bon billet de blog où il explique plus techniquement comment fonctionnent ces filtres. Je pense que et qui ont les mêmes implications, les mêmes problématiques que dans le dossier qui nous
intéresse. C'est les mêmes personnes qui les ont fait, en fait, qui les ont inventés. Enfin, si on pense à Content ID, en tout cas, qui est genre le plus gros filtre, c'est YouTube et Google qui l'ont fait. Les mêmes personnes qui, manifestement, sont à l'idée du filtre dans le règlement terroriste. Donc, c'est les mêmes acteurs qui font, donc évidemment que ça sera pertinent.
Et d'ailleurs, ça arrive vachement à ce que tu dis, parce que la semaine dernière, nous, on a pas mal de députés qui nous ont dit « Ah, c'est marrant, on a beaucoup de lobbies, justement d'entreprises de filtres automatiques qui cherchent justement à faire passer ce règlement pour mieux vendre leurs outils derrière. »
Alors après, il y a quand même des différences intéressantes avec la lutte contre la directive copyright. Dans la directive copyright, bon, YouTube joue un jeu trouble, parce qu'il joue toujours un jeu trouble. Aujourd'hui, il se prétend opposé à la directive, alors qu'il a un peu attendu que les débats au Parlement européen aient bien avancé pour avoir une position aussi explicite qu'aujourd'hui. Reste que de façon économique très simple, YouTube a quand même bien intérêt à ce que l'article 13 soit rejeté ou sacrément affaibli. Alors que dans le règlement terroriste, c'est beaucoup plus compliqué, parce que le règlement terroriste, a priori, il n'a pas vocation à s'appliquer à YouTube. Alors, il s'appliquera à YouTube, mais YouTube respecte déjà le règlement, en fait. Vu que le règlement était calqué sur la pratique de Facebook et YouTube, et Google en général. Donc, eux, ils n'ont pas d'intérêt stratégique à s'y opposer. Alors, après, ils font du petit lobby où ils disent « Bon, quand même, ce règlement, ça nous fait chier, ça nous pose des obligations. » Mais après tout, c'est des obligations qu'on respecte déjà, donc bon, c'est pas très grave. Mais, en fait, le règlement les renforcera. Donc, pour la raison qu'a dit Martin, parce que d'abord, c'est les seuls à savoir faire ce que le règlement exige. Du coup, toutes les plateformes vont se tourner vers eux pour savoir comment faire. Et aussi parce qu'au passage, ce règlement, il a des bonnes chances de dissuader ou de détruire pas mal de petits concurrents ou de modèles alternatifs qu'à l'April, comme à la Quadrature du Net, on défend et qu'on espère être l'avenir du web. Donc des modèles alternatifs plutôt non commerciaux, plutôt décentralisés et en tout cas pas capables de répondre à la police en une heure. Donc dans tous les cas, YouTube en sort fortement gagnant. Si ce texte était adopté, à la différence de la directive copyright où YouTube aurait plutôt intérêt à ce qu'à mon avis elle soit pas adoptée, même si dans les deux cas il s'en sort très bien. Donc c'est intéressant de voir que l'alliance gouvernement-GAFAM change en fonction du sujet. Et aussi parce que là il faut dire que contrairement à la directive copyright, sur le règlement terreau, le jeu est assez clair, c'est entre l'État sécuritaire et la population attachée aux libertés. Alors que dans Copyright, on a un troisième acteur qui est une industrie vieillissante et un peu perchée depuis au moins 10 ans, ou qui rend le débat encore plus loufoque. Mais c'est quand même intéressant de voir que voilà, l'industrie culturelle. En mettant côte à côte ces débats, on voit quand même que les rapports entre l'État et les GAFAM sont encore très complexes. Il y a énormément d'alliances et d'intérêts partagés. Mais on a aussi des choses parfois qui ressemblent à la confrontation.
Et alors ce que je trouve, ce qu'on observe quand même, et vous avez mis un peu le doigt dessus, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question, okay, donc ce texte arrive, propose des choses, mais comment est-ce que ça fonctionne jusque-là? On voit notamment que ça fonctionne à travers une exploitation assez sévère, mais ça fonctionne sur les principales plateformes. Et dans les deux cas, c'est aussi le cas pour le droit d'auteur. Ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a aussi un des impacts principaux, c'est que ça va renforcer la centralisation de tout système autour de quelques plateformes clés. Et si on réfléchit en termes de contrôle, c'est beaucoup plus facile de contrôler un point nodal unique. Et en fait, on peut se demander, alors vous parlez moins de ces alliances, je pense que dans les deux cas, en fait, c'est aussi de renforcer peut-être ces dynamiques-là. Alors quand on commence à réfléchir plus politiquement à ces systèmes-là, on observe que la réponse est beaucoup plus dans la décentralisation, dans le fait d'étaler, déjà de limiter la masse à contrôler, à filtrer, etc.
Je pense qu'il y a un problème qu'on rencontre, qui était flagrant la semaine dernière. Dès qu'on parle de décentralisation ou de modèles alternatifs, que ce soit aux parlementaires ou aux ministères, ils ne savent pas de quoi on parle, en fait. Mastodon, il y a très peu de gens, qui savent que ça existe, malheureusement. Et en fait, quand on leur en parle, ils acceptent l'existence, mais ils pensent que c'est des petits GAFAM. Ils pensent que c'est Facebook ou Twitter en plus petit. L'idée... Pourtant, à la base d'Internet, de décentralisation, ça veut dire quoi d'être plusieurs acteurs où ensemble, collectivement, on gère la même instance, mais en partageant le pouvoir? Ça, c'est des choses qui ne rentrent pas du tout dans leur mentalité. Et ils ne voient pas l'intérêt de défendre un modèle qu'ils n'arrivent pas, eux, dans leur culture politique, à imaginer. Et ça, c'est extrêmement dur. Alors, évidemment, d'avoir juste 4 ou 5 acteurs qui contrôlent le web, ça arrange tout le monde. Les personnes qui ont une philosophie sécuritaire, ça les arrange beaucoup. Mais ils ne sont même pas capables de voir ce qu'ils détruisent en faisant ça. Et ça, c'est inquiétant. Et ça veut pas dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui voient très bien ce que ça veut dire la décentralisation. Mais en tout cas, les politiques, eux, juste simplement parce que le rapport à l'État étant extrêmement centralisé, ils sont enfermés dans une vision du monde où quand on leur dit, en fait, Mastodon, on est des milliers et des milliers à héberger des millions de comptes de personnes, juste ça ne fait écho à rien du tout. Pour eux, ils se disent, ils sont en train de raconter n'importe quoi, ils délirent complètement. Soit il y a Twitter, soit il y a Facebook, soit il y a limite un petit Facebook qui demain sera le grand Facebook et qui, dans le meilleur des cas, est français.
Ce qu'il faut voir aussi, hein, moi, cette idée d'alliance, je trouve ça assez intéressant. On peut faire un point de contexte en France en ce moment. Et d'ailleurs, ça a été déposé lundi, je crois, au Parlement français. C'est une proposition de loi, alors cette fois-ci pas sur les contenus terroristes, mais sur les contenus haineux. Donc on parlait de problème de définition, là on la retrouve encore plus fort. Et on va retrouver en fait un peu les mêmes idées que le texte sur le contenu terroriste, c'est-à-dire des obligations de retrait de contenu extrêmement rapide. Alors là, je crois que c'est 24 heures ce qui a été proposé. Et la promotion, encore une fois, de filtres automatiques. On a Majoubi, quand il présente ce texte...
Mounir Majoubi,
le secrétaire d'État au numérique, qui dit « Ah, mais c'est trop bien !» Et là, c'est assez incroyable à lire. Dans le texte, il dit « Facebook a développé des outils de filtres automatiques, c'est génial, il faut que tout le monde l'utilise pour retirer, justement, et pour qu'il y ait le moins possible de contenu haineux en ligne. » Et là, en fait, on retrouve exactement la même chose que nous, on voit sur le contenu terroriste, c'est l'alliance entre les États et les grandes plateformes, à tel point que là, pour ce texte sur les retraits des contenus haineux, on a un truc au gouvernement qui s'appelle la mission Facebook, et c'est pas une blague, ils l'ont vraiment appelé comme ça, où en fait, bah, alors c'est là où c'est intéressant, est-ce que c'est Facebook qui a dicté sa loi ou est-ce que ça a été une alliance entre le gouvernement et Facebook parce qu'ils sont bien contraints d'avoir une plateforme centralisée ? N'empêche qu'on retrouve exactement la même logique, on retrouve la même alliance et on débouche en fait sur les mêmes idées, censure extrêmement rapide et promotion des filtres automatiques de Facebook en l'espèce.
Alors là, tu parles de la position du gouvernement, mais si on va voir du côté de ce que dit Mark Zuckerberg... c'est assez intéressant. Donc, cette mission Facebook, c'est quelques agents de différents ministères français qui, pendant 6 mois, font des réunions avec Facebook, vont dans leur centre de modération pour voir comment ça se passe, pour un peu voir comment le meilleur acteur de la modération sur Internet se débrouille et s'en inspirer. Donc ça, je moque un peu la vision de Macron. Mais si on regarde sur le blog de Zuckerberg, qui, il y a 4 mois, parlait de cette mission, il dit « En ce moment, la France est extrêmement sage et collabore avec nous pour écrire la loi ». Zuckerberg, il considère qu'il écrit la loi avec le gouvernement français.
Et c'est révélateur, ouais.
Comment ?
Non, c'est révélateur.
Ouais, il est super fier. Il est super fier. Et il dit, c'est ça la bonne loi. La bonne loi, c'est pas l'autorégulation, c'est pas imposer la loi aux gens, c'est les entreprises privées, les 4 ou 5 monopoles mondiaux qui écrivent la loi avec les gouvernements. Et ça, c'est encore mieux que l'autorégulation. Je me moque. Mmh. Hein.
Non, mais quelque part, si Facebook impose, crée sa propre loi sur son territoire qu'est Facebook, hein, code ISLO, on répète souvent, mais enfin, le code fait la loi, ça se voit beaucoup. Je pense qu'on peut, alors il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à rappeler là-dessus, si ce n'est comme dans la directive de l'auteur, il y a de vagues rappels, le respect des libertés fondamentales, mais qui sont creuses, et que le texte s'invalide par lui-même. Alors, une question qui est importante, si les gens nous écoutent, ok, bon là on fait un sombre constat, comment se mobiliser ? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Donc le 21 mars, il y a donc un vote en commission Libé, donc là sera la suite, je pense qu'on
commission
peut le rappeler.
Et
qu'est-ce
civiles.
Que, voilà, commission des libertés civiles, et comment, en tant que citoyen et citoyenne, on peut se mobiliser contre ce texte ?
Alors, le comment se mobiliser, c'est il faut appeler les députés. À la Quadrature, on a créé une page sur notre site, quadrature.net/...
Mais en fait, donc, vous allez juste sur la quadrature.net, c'est le premier...
Tous les liens sont dans la page avec toutes les références pour la retrouver.
Sur le site.
Et en fait, là-dessus, vous trouverez une plateforme où il y a donc tous les députés concernés qui vont voter sur ce texte. Il y a leur numéro de téléphone, il y a leur mail, il y a leur Twitter. Et il ne faut pas hésiter à les appeler. On a donné sur le site et sur la page avec les liens toute une analyse pour justement bien comprendre le texte, bien comprendre les conséquences, fournir des arguments si c'est parce que ça peut
traduire
être utile.
Traduit en français, anglais.
Et du coup, voilà, en fait, le principal, c'est vraiment, il ne faut pas hésiter, il faut les appeler, leur faire comprendre les dangers du texte et leur demander, en fait, de voter contre ce texte.
Ou au mieux, de ne pas se précipiter. Comme on disait tout à l'heure, un désespoir qu'on peut avoir, c'est que les députés retrouvent la raison et se disent, en 10 jours, on ne peut pas traiter un sujet comme ça, on reporte à plus tard. Ce qui est aussi une façon de... Alors, mettons la pression qu'on peut obtenir. Alors, concrètement, demain, ça sera le 13 mars, donc s'il y a des rediffs, désolé. On sera dès midi au CICP à Paris, Donc c'est rue Voltaire, à côté du métro...
Rue des Boulets.
Donc dès midi, on va essayer de faire une après-midi d'appel aux députés à plusieurs, parce que c'est quand même plus marrant. Et aussi, vendredi 15 mars, on aura notre apéro mensuel, donc à la Quadrature du Net dans nos locaux. C'est au 60 rue des Ortos, vers le métro Maraîcher, sur la 9. Donc là, vous pouvez venir aussi, on fera un point, et on préparera, je pense aussi, une session d'appel aux députés pour la semaine prochaine. Il reste une dizaine de jours pour les appeler. Nous, quand on les voit, ils râlent que les gens appellent trop. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire que ça commence à être utile. Et voilà, continuons. On voit quelques députés commencer un peu à réaliser qu'ils sont un peu en train de faire n'importe quoi. Donc, pareil, c'est le signe qu'il nous reste 10 jours et qu'il faut terminer ça bien et fort.
Je pense que aussi, c'est vrai que pour ça peut être difficile d'appeler un député parce que bon, il y a toujours la parole qui est jamais facile. Faut pas hésiter à utiliser les autres outils, envoyer des mails aussi, ça marche. Même nous, on envoie des mails et ils nous répondent, donc ils voient. Donc il y a plein d'autres façons aussi.
Même
Twitter aussi, ouais.
Parce qu'ils sont pas sur Mastodon, désolé.
Souvent, faut voir que en ce moment, la plupart veulent être réélus et donc les interpeller sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, ça marche pas mal aussi parce qu'en fait, eux, ils se sentent un peu obligés de répondre, quoi.
Alors, une bonne stratégie, c'est aussi d'en commencer par un courriel et d'appeler. Est-ce que c'est dur? C'est d'introduire. Moi, je déteste appeler, mais bon. Après, on se rentre au jeu. Plus on en appelle, plus on rentre dans le jeu. Est-ce que vous avez bien reçu? Qu'est-ce que vous en pensez? Et il faut aussi voir qu'on n'est pas, logiquement, tout le monde n'est pas expert de ces sujets, surtout qui sont complexes. Ce qui importe, c'est de montrer, tu le disais, de montrer qu'il y a un rapport de force, qu'il y a des six gens que ça interpelle, que des gens qui se mobilisent. Si les arguments ne sont pas parfaits, c'est pas grave, ils ont déjà été entendus. Mm-mm. Et la démarche, parce que les gens savent que quand une personne qui va faire la démarche d'appeler, ça a du poids, ça a de la valeur pour la personne qui le reçoit. Donc il faut aussi juste un simple appel, même si les arguments ne sont pas parfaits, à participer, à créer un rapport de force.
Même si c'est
vachement important.
Même si c'est 20 secondes, ils ne sont tellement pas habitués, ou même si c'est les assistants en général qu'on a, que ce n'est pas directement les députés, ils ne sont tellement pas habitués à avoir des gens qui leur parlent d'un sujet qui, en fait, souvent on connaît mieux qu'eux. Souvent, quelqu'un qui, juste qui a écouté l'émission là, ici, va mieux connaître le sujet que certains membres de la commission Libé. Donc, même si on baragouine un peu quelques mots en anglais, ils seront tellement surpris que ça a un effet. Et après, ils commencent à douter, ils commencent à traîner des pieds pour aller en réunion. Et ça, c'est bon. Ça, politiquement, ça permet aux députés les plus protecteurs de la liberté d'avancer, etc.
Donc là, on a jusqu'au 21 mars pour faire le vote. On peut préciser que le droit d'auteur, c'est sera le 26 ou 27 le vote.
Exactement,
n'hésitez pas à parler des deux en même temps parce qu'il y a
bien
des problématiques similaires.
C'est
compliqué, mais ça montre de la même manière qu'il y a une mobilisation qui est faite. Et de faire du lien, justement, je pense, sur la problématique aussi du filtrage parce qu'elle est centrale aux deux. Ça peut renforcer aussi mutuellement. Ouais. Mais voilà, donc si vous voulez appeler juste, faites la démarche, essayez. Et en fait, moi je trouve qu'on rentre assez rapidement dans le jeu et on a une satisfaction de se dire j'agis pour quelque chose qui est assez important. Et en fait, voilà, on se fait des listes, on peut se retrouver aussi entre amis. On peut se motiver aussi les uns les autres. Et je pense que c'est bien. Ouais. Donc vendredi 15, un apéro, c'est aussi une manière de se mobiliser ensemble.
Et puis demain, au CICP, demain 13.
La Chambre commerce et industrie de mémoire, je pense que c'est plus facile à rechercher. De toute façon, on mettra le lien également en référence. Non, CICP, peut-être que j'aurais dû vérifier avant.
De quoi ?
Pardon. CICP, c'est Chambre commerce et industrie, je crois.
Non, pas du tout.
Non.
C'est Centre international des contre-cultures populaires.
Oui, complètement.
Pas des cultures populaires, plutôt.
Non,
pas du tout. C'est un lieu qui accueille des luttes de liberté fondamentale et syndicale depuis de très, très, très longtemps.
Je rajouterais juste un truc, c'est que...
Oui, pour conclure.
Même les députés, en fait, quand on les appelle, souvent, en fait, ils ne connaissent pas le texte. Donc il n'y a même pas, si ça se trouve, il y a des moments où en fait, il n'y a même pas à y avoir d'arguments ou de débats. Enfin, nous, ça m'est déjà arrivé, du coup, dans des appels, d'avoir un assistant en fait, qui ne connaît pas le texte. Et juste ça, au moins, ça va, après avoir accroché, au moins, il va regarder le texte, s'intéresser et avec un peu de chance, tomber sur nos positions. Donc même ça, ça peut servir.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'April.
Merci à la Quadrature, donc Arthur Messot et puis Martin Drago. Donc vous allez sur le site de laquadrature.net et directement vous allez avoir toutes les informations pour agir sur ce sujet. Je rappelle donc c'est en commission des affaires des libertés civiles, donc c'est pas tous les parlementaires en plus,
c'est
un nombre restreint. Et au niveau français, il y a peut-être 10 ou 12.
6.
Ouais. Ah bah alors voilà.
Mais il y en a des méchants, il y a genre Rachid Dati et Brice Hortefeux qui font pas mal de bruit et qui sont assez efficaces pour nous.
Qui sont les plus derrière.
Pas hésiter à les embêter, du coup.
Oui.
Donc, ne pas hésiter, en tout cas, à les appeler. Donc, toutes les références sont sur le site donc, de la Quadrature du Net, donc laquadrature.net.